I got glue in Antioch, put I to the pipe on it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit, peux pas m'engarder, pas m'engarder.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite souche a perdu une belle plume de haut.
Pas m'engarder, pas m'engarder.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai, mais aux quatre coins. J'en ferai pas, aurons-nous deux qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Et bonjour.
Et bonjour.
Bienvenue dans l'écho du parquet, votre émission bimensuelle.
Donc quinzomadaire.
Quinzomadaire, dédiée aux musiques et aux danses traditionnelles. Cette semaine, on va vous parler de la Fédération des musiques et danses traditionnelles, la Fédération nationale, avec une interview dont tu nous parleras un petit peu plus tard,
ouais.
Yann. Et sinon, bah, sachez que vous pouvez toujours nous écouter à Cré sur Fréquence 7, à Valence sur Radio Méga et à Aubenas sur Radio Saint-Ferréol. Ou dans votre lit, où qu'il soit, sur Internet.
Il y a des chances qu'il est dans votre chambre, votre lit. Et sur Internet, c'est sur notre audioblog Arte Radio, l'écho du parquet. Voilà, et ben si tout le monde est prêt, on va commencer. Et on va commencer tout de suite par une nouveauté qui balance, puisque, accrochez-vous bien, ça va faire poum, poum.
Yeah. Et c'est élucidation pour vous, mesdames et messieurs, pour l'applaudir.
Bravo. Et c'était donc un extrait du nouvel album de Bunia Sound, qui est effectivement intitulé Poum Poum, comme je l'annonçais au début.
Et non pas Boum Boum.
Et pas non pas Boum Boum, oui, c'est toute la différence. Et il s'agit d'un album live qui est coproduit par le Grand Barbichon et l'AEPEM et qui a été enregistré en juin 2024 lors d'un bal dans un lieu de Nouvelle-Aquitaine où l'on travaille le bois et où il y a une sorte de grande cabane et qui se nomme donc Copo Cabana.
Oui.
Excellent jeu de mots.
Superbe.
Dans Bunia Sound, on retrouve Loïc Etienne au diato, Olivier Sulpice au banjo et au marteau géant qui fait un peu Thor sur la pochette. Thor, T-H-O-R, hein, pas T-O-R-T. Et Julien Barbans à la cabrette, au violon et au chant. Mais ce n'est pas lui qui chante sur la suite La cabrette Mamaïr que nous venons d'entendre. Comme l'a annoncé Loïc à la fin, c'est Lucie de Siom qui passait par là et qui a dû chanter. Voilà. Et je vous jure que j'ai longuement envisagé de vous proposer autre chose qu'une suite de bourrée trois temps pour présenter cet album d'un groupe de musique d'Auvergne tel que Bunia Sound.
Mais ça aurait été les trahir.
Mais je sais pas. J'ai notamment pensé très fort à la suite de Scottish qui arrive juste après sur le disque et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai tendu toute ma volonté vers cette alternative pour ne pas faire trop cliché. Et ben non, avec la voix de Lucie en supplément, l'appel de la bourrée a été encore une fois le plus fort. On est peu de choses quand même.
Face à la bourrée trois temps, on n'est rien du tout, c'est sûr. On vous laisse méditer ça, et si vous voulez plutôt passer à autre chose, on passe maintenant au sujet du jour qui est consacré à la Fédération des musiques et danses traditionnelles, dont on a rencontré des membres cet été.
Voilà, et donc on les a interviewés au son continu, deux représentants de la FMDT qui vont se présenter eux-mêmes dans l'interview, FAMDT, ils vont vous expliquer l'évolution du A, qui est passé de association à acteur et actrice, et le sens de tout ça. Voilà, on vous laisse en compagnie de la fédération qui fédère le trad, et on se retrouve d'ici 20 minutes pour parler de ça.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Dechandon et je suis l'administratrice générale de la FMDT, donc je suis salariée de la fédération et je m'occupe de la coordination de la vie associative et toute la partie financière, budget.
Et puis moi c'est Yvon Davy et donc je suis secrétaire de la FMDT et je suis élu moi par contre. Et donc par ailleurs je dirige l'association La Lour en Normandie. Il y a deux naissances, une première naissance en 1985 et puis une autre en 1987, mais on va fêter l'an prochain la première naissance officielle qui ferait que la FMDT a 40 ans. Elle a été constituée en fait avec une double impulsion, une impulsion des acteurs de terrain, association qui s'était mise en place dans différentes régions à partir du moment de redécouverte des cultures régionales des années 70 en fait. Et donc tout ce travail de collectage a donné lieu souvent à des associations qui se sont mises en place, qui se sont créées pour d'une part enquêter, mais d'autre part aussi transmettre, valoriser toutes ces musiques que les gens découvraient, redécouvraient d'une certaine manière. Donc il y avait ces associations qui existaient dans plein d'endroits, alors soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle départementale, soit à l'échelle locale, mais qui existaient les unes à côté des autres et qui les gens se connaissaient un petit peu parce qu'au bout d'un moment il y a eu des festivals qui se sont constitués, il y a des moments de rencontre. Mais il n'y avait pas de coordination générale. Et puis, avec l'arrivée de la gauche en France au pouvoir en 1981 avec Mitterrand, avec Jacques Lang qui arrivait au ministère de la Culture, il y a eu une autre lecture de la culture. La culture, c'était plus seulement la musique classique, c'était aussi des musiques diversifiées, des cultures diversifiées. Et donc, il y a eu un intérêt pour justement ces musiques d'essence traditionnelle, musique régionale, régionaliste, enfin on ne sait pas trop comment les nommer, musique populaire. Et il y a eu un peu ce moment de rencontre entre ces associations locales, régionales, qui essayaient un petit peu de se regrouper, d'échanger entre elles pour se dire il y a peut-être un intérêt à faire des choses ensemble. Et puis ce mouvement national, en fait. En fait, la FMDT est née de ce double mouvement. Finalement, le ministère, ça l'intéressait d'avoir un interlocuteur unique aussi pour parler à toutes ces associations présentes dans toutes les régions. Et en même temps, les associations étaient intéressées pour aussi se dire on sera peut-être plus fort et plus fortes les associations si on est réunis ensemble dans une structure globale quoi, qui fédère tout ce monde-là, quoi, des musiques traditionnelles.
On accueille toutes les associations qui ont un rapport avec les musiques et les danses traditionnelles. Par contre, quand les structures veulent adhérer, nous, on demande, c'est pas des garanties, c'est-à-dire qu'on travaille avec des valeurs, notamment la valeur du droit du travail. Donc, on veut voir comment fonctionne cette structure. Donc, c'est pas vraiment pour avoir des choses très précises. C'est juste pour que les gens soient en accord et en adhésion avec nos valeurs et avec le droit du travail. Alors, à l'heure actuelle, on va arriver aux alentours de 200 structures puisque on ne prend pas les adhésions individuelles à part à la marge.
Donc, au niveau de la FMNT, en effet, on défend des valeurs aussi autour de la diversité culturelle et des droits humains fondamentaux, qui fait qu'en fait, on va être très attaché aussi à lire ce que les gens racontent par rapport à leur activité sur les musiques traditionnelles. On va interroger un petit peu le sens du projet, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en fait, les musiques traditionnelles, si on s'intéresse, nous, à collecter, diffuser ces musiques traditionnelles, c'est pas pour se replier sur soi, c'est plutôt pour s'ouvrir à la diversité du monde, quoi. Puis avec la FMNT, on affiche suffisamment ce qu'on défend pour que les gens qui sont plutôt dans une logique à se refermer sur soi ou à défendre des idées identitaires, parce qu'on défend des identités, nous, mais pas une logique identitaire, enfin, sache que ce n'est pas forcément le lieu où ils vont trouver un espace pour s'exprimer et s'épanouir.
Juste pour terminer là-dessus, les adhésions elles se font en conseil d'administration, c'est-à-dire qu'on présente la structure, on en discute ensemble, pour que tout le monde soit bien d'accord là-dessus. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est que nous, on ne court pas après les adhésions, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des structures qui ont envie, mais ce n'est peut-être pas le moment, donc on peut les suivre. On peut discuter avec elles, on peut les accompagner, mais on peut leur dire pour l'instant, c'est pas le moment. Revenez après, enfin voilà, c'est pas définitif. On est très ouvert et c'est important, effectivement, qu'on ait des adhérents qui soient totalement en phase avec ce qu'on défend.
Et les adhérents, aujourd'hui, c'est pas seulement les associations, en fait, parce que l'histoire de la FMDT, c'est, au départ, le sigle, c'est Fédération des associations de musique et danse traditionnelle. On l'a fait évoluer et maintenant, il y a 7-8 ans, c'est devenu Fédération des acteurs et actrices des musiques et danse traditionnelles, parce qu'on a incorporé aussi des gens qui travaillent sur les musiques traditionnelles mais qui ont d'autres statuts. Ça va être par exemple des SCOP qui développent des activités sur les musiques traditionnelles, ça peut être des SARL, ça va être des pôles d'enseignement supérieur. Ça va être aussi, on a une collectivité aujourd'hui qui est le département de la Manche, parce qu'ils développent le festival Les Traversées Tatiou, qui est en fait un festival dédié aux musiques traditionnelles, aux musiques du monde, et qui sont très sensibles à ces sujets-là et qui veulent adhérer. Et ben, dans la mesure où ils rejoignent les valeurs qu'on défend, etc., on s'est dit que ce serait intéressant d'ouvrir plus largement pour rendre compte aussi de la diversité des structurations qui existent aussi autour des musiques traditionnelles, et pas se priver de compétences ou de gens qui ont des choses à défendre. C'est vrai que dans l'histoire, ça a été une vraie question, parce qu'en fait, surtout ces musiques nées dans les années 70, un mouvement d'émancipation, aussi un mouvement d'expression libre, enfin, qui est revendiqué comme tel, et on prenait un peu en méfiance les gens qui voulaient devenir professionnels, parce que justement, c'était des musiques qui étaient issues de la tradition orale, la transmission orale, et il ne fallait pas surtout pas vivre de ça. Bon, c'est des débats qui parcourt la FMDT depuis le début. Aujourd'hui, je pense que ces débats-là sont un petit peu apaisés parce que justement, même les gens qui défendent le fait qu'on est sur des pratiques amateurs qui doivent le rester, mesurent l'intérêt aussi d'avoir des structures qui sont aussi des interlocuteurs des pouvoirs publics pour mieux faire reconnaître ces pratiques qui ne sont pas seulement professionnelles. Les structures professionnelles, qu'est-ce qu'elles sont? C'est des structures qui sont des centres en région de musique et danse traditionnelle, là où ça existe, mais qui vont défendre la diversité des pratiques, en général. Donc, pas seulement les pratiques amateurs, mais aussi les pratiques professionnelles. Mais, on va dire, tout avance en même temps. C'est-à-dire que les pratiques amateurs, en général, naissent aussi parce qu'elles ont vu des gens sur scène qui les ont inspirés. Et ces gens sur scène, ils étaient quoi? Souvent, ils pouvaient être amateurs, mais souvent, ils sont aussi professionnels. Et donc, en fait, tout ce mouvement-là se nourrit lui-même. Et nous, on n'est pas dans une dichotomie à dire il faut penser différemment les professionnels et les amateurs. Non, on essaie d'avoir des réponses sur l'ensemble du champ, Et on pense l'idée de notre mouvement justement comme un champ, un espace dans lequel il y a des gens qui sont plus avancés ou parce qu'ils sont artistiquement plus avancés, qu'ils ont des choses à faire valoir pour la transmission, pour la création. Mais en même temps, on a besoin d'organiser les affaires aussi, pour aussi représenter nos musiques vis-à-vis des pouvoirs publics. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on fait aussi bien à l'échelle de la FMDT auprès du ministère de la Culture, mais dans nos régions, en fait, les associations régionales qu'on représente, en fait, on fait la même chose avec les régions, les départements. Et c'est tous ces strates qui renforcent ce mouvement général, ce mouvement global. Et c'est vraiment ça qu'on défend. On n'est pas, nous, les professionnels contre les amateurs, ça n'a pas de sens.
À quoi d'être ensemble. Alors, juste, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question quand les gens veulent adhérer. Ils nous disent, ça va nous apporter quoi de... C'est la question qui revient le plus. Alors, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte à tous, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ensemble et qu'on est un réseau solide, ça nous sert à faire réseau, ça nous sert à parler d'une seule voix. C'est le rôle de la FMDT, en fait. C'est d'abord ça. Souvent, j'aime bien citer la phrase de Kennedy. Ne te demande pas ce que la FEDE peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour la FEDE. Mais c'est ça, en fait, c'est un double sens. On s'entraide, nous, on représente, mais on a besoin d'eux aussi pour faire remonter du terrain toutes les revendications et pouvoir porter leurs paroles. C'est pas une prestation de service, c'est vraiment une construction commune qui fait vivre la FEDE et ses valeurs. Et...
À partir du moment où tu es rentré dedans, tu ne poses plus la question de ce sens, parce que finalement, le fait d'y être et de partager ces moments de rencontre et d'échange te nourrissent pour ta pratique locale, quoi. Parce que si tu es en fonction de ta géographie, si tu es en Ardèche, ça va nourrir. Tu te dis, j'ai vu ça, que ça se passait comme ça dans l'autre région. Parce que sinon, on pourrait prendre le même modèle et ça pourrait nous être profitable, quoi. Mm-hmm. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'enjeu. On veut situer en fait la naissance de la FEDE. Une des premières démarches a été aussi de reconnaître les acteurs transmetteurs, en fait, d'inscrire la musique traditionnelle dans le cadre du champ de l'enseignement institutionnel. Et en fait, une des premières réalisations de la fédération en lien avec le ministère, c'était de mettre en place des DE et des CA de musique traditionnelle, ce qui n'existait pas auparavant, mais ce qui permettait aussi d'inscrire les musiques traditionnelles dans le champ de l'enseignement institutionnel, donc les conservatoires à différents échelons, départementaux, régionaux, etc. Donc on a un grand nombre d'acteurs du terrain qui sont devenus comme ça enseignants, profs de musique reconnus, à côté du jazz, à côté du classique, etc. Et c'était un moment essentiel et déterminant, quoi. Et dans les années 2000, on a mis en place au sein de la fédération une commission danse, justement pour réfléchir justement à des aspirations de certains acteurs de terrain, d'être reconnus aussi dans leur activité professionnelle de transmission de la danse. La question s'est posée à ce moment-là de savoir s'il fallait aller jusqu'à revendiquer un DE, enfin un diplôme d'État auprès du ministère de la Culture ou pas. C'est des sujets qui ont été compliqués, des débats compliqués, si bien que la commission danse, elle a explosé en vol. Et donc le sujet a été en partie mis sur le boisseau parce qu'il suscitait beaucoup de dissensions, plus que pour la musique. Finalement, la musique avait suscité moins de débats. La danse en suscite plus, peut-être parce que la musique, potentiellement la musique, tout le monde n'est pas musicien, alors que tout le monde dans notre milieu va être danseur. Y a beaucoup plus de gens concernés, donc il y a beaucoup plus de d'opinions, de points de vue qui potentiellement divergent. Et là, la notion de amateur professionnel qu'on évoquait tout à l'heure revient en premier plan en disant mais pourquoi lui pourrait être plus bon. Et donc par rapport à l'histoire de DE, comme disait Nathalie, je pense qu'on n'a pas encore trouver la bonne réponse, parce que en fait c'est pas une réponse qui est simple, elle demande un peu de réflexion, un peu de discussion. Et là le retour du DE, en fait c'est un retour un peu par la bande, parce que finalement c'est pas le milieu qui s'emparait de ce sujet là pour dire on l'amène sur le plateau. C'est en fait parce que le hip-hop doit être reconnu comme discipline olympique, et donc à un moment donné il faut reconnaître ses compétences dans un cursus de formation officielle, etc. Donc ça nous revient un peu par la bande et nous on se dit dans ce moment-là, pas de panique, on va prendre les choses les unes après les autres. Et en tout cas, vu à un moment donné dans l'histoire de la FMDT, comment la danse, ça a été compliqué à gérer, cette histoire de diplôme d'État éventuel, si on a à le reprendre, et on va le prendre de manière posée.
Les outils, on a notre outil modal là, qui vient de sortir il y a un an, fruit d'un long, long travail et d'une longue réflexion qui a l'ambition en fait, de regrouper toutes les ressources des musiques et danses traditionnelles. Donc modal, c'est une plateforme numérique qui mobilise les ressources déjà existantes comme les podcasts, qui regroupe les dossiers sur des thèmes précis. On a aussi numérisé énormément d'ouvrages qui étaient en rupture de stock pour que tout le monde puisse y avoir accès. On a des interviews, c'est vraiment, en fait, on aimerait à terme que ce soit une plateforme où les gens se disent, tiens, si on a une question sur les musiques traditionnelles, qu'on soit profane, qu'on soit étudiant ou chercheur, on peut la trouver sur cette plateforme. Si on ne la trouve pas, vu que c'est une plateforme qui est participative, on peut aussi y participer et écrire, proposer des sujets, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment notre outil principal, c'est celui-ci. Après on a notre site internet qui est plus dédié aux institutions ou aux personnes ou aux structures qui veulent adhérer et qui veulent avoir des choses beaucoup plus précises sur les chartes, etc. Mais ce sont nos deux outils principaux en tout cas, ce sont ceux-là.
Alors ce sont les outils en effet de communication officielle au public, mais après c'est aussi toutes les actions de la FMDT qui sont aussi des outils, c'est-à-dire que la FMDT propose des rencontres régulières alors qui sont assez diversifiées. Par exemple, la FMDT propose des bourses de compagnonnage donc qui sont financées notamment par la DAMI. Ça permet de proposer ça porte bien son nom, un compagnonnage entre des musiciens qui sont professionnels en voie de professionnalisation avec des gens qu'ils estiment comme des maîtres. Enfin bon, c'est un grand mot, mais au sens de gens qui font référence pour eux et qui se disent, moi j'aurais à apprendre auprès d'une personne comme lui ou elle. Et donc, ces bourses-là sont proposées pour ces musiciens qui sont en émergence pour leur permettre de construire leur plan de formation. C'est ce genre de choses, mais c'est aussi les rencontres nationales qui sont organisées régulièrement, donc tous les ans, et qui sont des moments vraiment de convergence et d'échange sur des thématiques. Là, cette année, on a travaillé sur les communs culturels, donc un sujet vraiment aussi qui est au cœur de nos problématiques, par rapport à la marchandisation aussi des modèles culturels. Enfin voilà. Mais c'est aussi des moments d'accompagnement, comme la FMDT met en place, pour des structures qui ont des soucis de pratique dans leur gestion des ressources humaines, de ressources budgétaires et autres, qui ont des questions très pratiques. La FMDT, alors il y a Nathalie qui est présente au bout du fil pour répondre vraiment aux questions pratiques. Et quand ça dépasse un peu les questions simples, on peut répondre simplement. On a un dispositif qui permet d'accompagner aussi des structures.
Juste, c'est important de le dire aussi, ces rencontres accompagnement sont destinées aux acteurs et aux actrices des musiques et danses traditionnelles, mais pas forcément à nos adhérents. C'est-à-dire que quand on peut, on élargit aussi le champ. Ça rejoint ce que je disais, on ne pousse pas forcément les gens à adhérer. Nous, on est là pour soutenir le milieu, mais on ne réduit pas forcément nos actions à nos adhérents. Il y a un enjeu qui se pose partout, c'est l'égalité et la diversité dans les pratiques. Nous, on a monté un projet qui s'appelle Tambour Battante pour valoriser les musiciennes. On a fait tout un travail de valorisation sur, là, par exemple, là où je vous parle en ce moment, dans le son continu, il y a l'expo photo. On a fait des vidéos pour montrer en fait, les femmes dans leur environnement professionnel. Et on a toute une série de podcasts aussi là-dessus. Donc on travaille aussi beaucoup sur ces questions-là parce que ça, c'est une remontée de terrain. Et on vient de créer un annuaire des femmes musiciennes dans le trad qui est aussi présent sur Modal, qui référence en fait tous les groupes qui ont au moins une femme au plateau. Comme ça, ça permet à des programmateurs qui nous disent parfois on ne sait pas où sont les femmes, il n'y a pas de groupe de femmes. On dit voilà, maintenant cet annuaire il existe, il faut vous en saisir. Il y a donc 500 groupes, donc voilà, ça c'est une problématique et une remontée qui traverse notre champ des musiques trad, mais qui n'est pas forcément d'ailleurs que dans les champs des musiques traditionnelles, mais nous on s'en est saisi parce que c'est une question importante. Et là on va travailler sur les plateformes de musique aussi, parce que ça c'est comment on écoute nos musiques. Il va falloir qu'on se questionne là-dessus. Est-ce qu'on doit être présent sur les plateformes? Si oui, comment est-ce qu'on s'organise? Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un grand chantier qu'on va mettre en œuvre dans les années à venir. Et pour rebondir sur ta question, les problématiques spécifiques qu'on doit aussi traiter dans les années à venir, Yvon, je te regarde parce que c'est le sujet du collectage et des archives aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On a collecté énormément d'archives depuis des années. Il y en a qui ne sont peut-être pas numérisées, donc on va aussi se poser la question là, très rapidement, et notamment là à Rennes, on va faire un colloque qui s'appelle « Nos archives, nos futurs » sur qu'est-ce qu'on fait de ces archives, comment on les fait vivre et comment déjà on les protège. Donc ça aussi, ça va être un enjeu assez important sur les années à venir avant que certaines disparaissent parce qu'on n'aura pas su les traiter correctement. Me fait penser au rock garage des années 80 qui se faisait, qui était vraiment des musiques d'artisans dans les garages, sur les territoires. Ben moi, ça me fait penser, en ce moment, ce qu'est en train de vivre la musique trad, ça me fait penser à toute cette mouvance-là de rock underground des années 80. Donc voilà.
Oui, puis aussi, il y a quand même des valeurs qu'on défend qui font qu'on retrouve dans d'autres esthétiques musicales. Il se trouve qu'on partage des locaux avec la Fédélima, la Fédération des lieux de musique actuelle, qui réunissent les musiques amplifiées, les musiques actuelles, et puis les jazz aussi. On se retrouve aussi dans des espaces communs, par exemple comme l'UFISC, qui est une autre entité dans laquelle se réfléchissent aussi l'économie de la culture, qui met en avant non pas la marchandisation de la culture, mais ce que la culture produit pour la société. Et ce qu'elle crée de lien entre les gens. Et donc, en fait, cette dimension relationnelle, sociale de la culture, c'est quelque chose que nous, on met en avant. On n'est pas les seuls à la mettre en avant. Même si, comme le disait Nathalie, les musiques actuelles sont soumises, musiques amplifiées sont soumises à d'autres problématiques encore plus fortes que nous. Parce que le grand écart, il peut être très fort entre les grosses machines qui sont récupérées par le marché et puis les acteurs de terrain qui essaient de percer, qui essaie de faire des actions qui ont du sens. En tout cas, ces débats-là, ils existent, ils ne se résolvent pas comme ça.
FMDT est une des fédérations les mieux rétribuées, qui a le plus fort subvention par le ministère de la Culture des fédérations de musique. Donc c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Donc non, on n'est pas du tout déconsidéré, bien au contraire, contrairement à ce qu'on peut penser. On est en lien avec le Centre National de la Musique, on est en lien avec le ministère de la Culture, on a des discussions passionnantes et on nous demande d'ailleurs très souvent d'intervenir. Alban Coquerel, le directeur, est très souvent demandé pour son analyse de la situation. Non, absolument pas.
Oui, parce qu'en fait, historiquement, la réalité de l'origine de la création de la fédération, qui était une double impulsion du ministère et des acteurs de terrain, qui fait que le ministère de la Culture a un fort intérêt à échanger avec la FMDT.
Et toujours aujourd'hui.
Oui, toujours aujourd'hui. Et ça l'a jamais quitté depuis que la FMDT a été constituée. Par contre, on peut quand même dire que les musiques traditionnelles, de manière plus large, ne sont pas forcément considérés de la même manière dans tous les territoires. C'est-à-dire que dans les politiques régionales, ça ne se traduit pas forcément partout de la même manière, que souvent on reste les petits poussés au niveau des aides accordées, et que si on considère aussi une autre dimension qui est la diffusion des musiques traditionnelles, c'est qu'on est dans une forme d'omerta ou on est sous la ligne de flottaison. C'est-à-dire qu'entendre des musiques traditionnelles sur Radio France, c'est la gageure. Il y a juste une émission qui est au Cora Radio de France. Enfin, au Cora, c'est la seule émission qui existe sur les musiques traditionnelles, musique du monde. Donc c'est quand même un petit peu court. C'est-à-dire que c'est un défi majeur pour nous d'arriver à rendre compte, à rendre visibles ces musiques dans les médias nationaux. Ouais. Et aujourd'hui, on est à peu près invisibilisé. Et donc, alors que ça existe, on voit bien le public que ça draine dans tous les festivals, dans tous les bals, partout en France. on passe d'écran. Il y a là, le fait qu'on ait eu le printemps du bal à la Philharmonie à Paris, c'était quand même pas négligeable. C'est un élément qui fait que les musiques traditionnelles commencent à être reconsidérées. Et j'espère qu'à un moment donné, ça va déconcer des choses à d'autres endroits et qu'on va arriver à une meilleure visibilité de ces musiques.
Et en accompagnement de ce sujet sur la FMDT, vous avez pu écouter Adieu Zidane, une polka qu'on trouve sur un album qui vient de sortir, qui est le premier album du trio Mosaïque. Et la pochette du CD n'explique pas l'origine de ce titre mystérieux. Le nom de l'album Mirliflore ainsi que son dessin de couverture à base de personnages hybrides ayant une tête d'oiseau sont tout aussi mystérieux, beaucoup de mystères autour de cet album. Par contre, si vous voulez tout savoir sur le trio Mosaïque et que le groupe n'est vraiment plus aucun mystère et plus aucun secret pour vous, le plus simple est de vous rendre sur l'audioblog de l'Écho du Parquet et d'y écouter notre émission numéro 21 qui leur était consacrée pour justement annoncer la sortie prochaine de cet album.
Mais bon, il n'y a rien sur Zidane dans cette interview.
Non, on ne saura pas.
J'aime bien. Alors moi, l'Écho du Parquet, j'aime bien. Et alors, ce que j'aime bien dans cette émission, c'est que ça met le feu. Mais alors là, ça met le feu au parquet. Hein. Alors là, vraiment, et puis j'aime bien.
Alors, on entendait Nathalie nous en parler dans cette interview. FMDT a développé un outil qui s'appelle Modal Media, donc un site participatif où sont échangées des ressources assez diverses. On y trouve par exemple un annuaire des luthiers et luthières d'instruments trad, un annuaire des musiciennes, de la documentation, des collectages et puis des dossiers thématiques. On a par exemple déjà évoqué ici celui sur l'accordéon diatonique et puis un autre assez pointu dont on n'a pas parlé mais on vous invite à aller voir, qui est donc un dossier qui est consacré aux musiques modales / musique à bourdon / musique traditionnelle et qui tente de définir tout ça d'un point de vue musicologique.
Et surtout, on peut y écouter sur Modal.
Eh bien, l'Écho du Parquet.
Voilà, c'est voilà. Peut-être même vous nous écoutez en étant passé par là, puisqu'on fait partie des podcasts qui sont diffusés sur cet outil, cette plateforme.
Voilà. Alors, on vous conseille, en tout cas si vous êtes curieux, curieuse des musiques traditionnelles, d'aller y faire un tour. Parmi les dossiers, on voulait vous faire découvrir celui consacré à la musique amérindienne de Guyane, qui a été agencé par Florent Vatelier, qui est auteur d'une thèse sur le sujet. On y apprend notamment qu'à l'instar des autres peuples amérindiens, ceux de Guyane utilisent majoritairement le souffle dans la création musicale, alors avec la voix, mais aussi avec de nombreux instruments à vent. Il y a des flûtes en bambou ou en os, et puis cette clarinette en bois sans trou qui fait un son vraiment étonnant. ... Alors elles sont ici jouées par des membres du peuple Wayana qui vit au sud du fleuve Maroni. Quand elle n'est pas individuelle ou associée à des rituels chamaniques, la musique des peuples amérindiens de Guyane est, finalement comme dans le bal folk, collective et liée à la danse et à la boisson. Comme dans le bal folk.
Ils ont aussi du jus de gingembre.
Non, c'est de la bière de manioc qui est préparée par les femmes. Et puis la musique, par contre, c'est vraiment le domaine des hommes. À l'exception de ce chant de...
Ils sont un peu moins dégenrés que le bal folk actuel chez nous, peut-être.
Eh bien, donc il y a quand même une exception.
Ah.
Qui est ce chant des hochets, qui est joué et dansé par des femmes pariquano. Je ne sais pas si c'est correctement prononcé le nom de ce peuple-là.
C'est encore plus compliqué que l'Auvergnat occitan.
Alors dans ce dossier, on parcourt aussi les initiatives contemporaines pour la survie et la création danse et musique amérindienne de Guyane. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'enregistrement en ligne. On vous laisse donc continuer à aller voir de plus près dans ce dossier, si ça vous intéresse. Il y a aussi des ressources écrites. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir.
Sur Modal.
Thank you.
Et c'était dans l'écho du parquet, Taltala, une valse à 5 temps du groupe L'Air Inconnu. L'Air Inconnu qui ne l'est pas tant que ça.
Inconnu,
c'est ça, pas R. Puisqu'on y retrouve à la guitare et à la mandoline Fabien Bucher de Ballo Gaggio et La Silva, à l'accordéon et à la guitare Sylvain Poul de Knock & Knock, dont on vous reparlera dans une émission, enfin un sujet sur eux, et au violon Dani Velasco de Giga et Le Grand Balthazar. Et tous les trois chantent aussi. Ce n'est pas un disque instrumental, malgré la virtuosité des musiciens et leurs envies de sortir des sentiers battus. Par contre, ce qui a longtemps été effectivement inconnu, c'est le nom du morceau que nous vous avons proposé et qui a donné au groupe son patronyme, d'après ce qu'ils disent sur la pochette du disque, puisque les trois compères ont longtemps joué ce thème d'origine arménienne à partir d'une partition dont le titre n'était pas le bon, donc ils ne connaissaient pas le titre, c'était L'Air Inconnu. Et en tout cas, il illustre bien la démarche instrumentale aventureuse du groupe. Il y a un plan au milieu là qu'on aime beaucoup.
Et alors, comment il s'appelle ce morceau maintenant ?
Taltala, c'est ça le vrai titre, semble-t-il. Ils disent que c'est un danseur ou une danseuse, je ne sais pas, qui leur a dit « Ah, mais je connais, voilà comment ça s'appelle ». L'album du groupe donc, qui vient de sortir, s'intitule « Jamais entendu parler ». Et la pertinence de ce titre prend fin avec cette émission, puisque désormais tout le monde en aura forcément entendu parler, vu que l'écho du parquet en a parlé. Une moitié des 8 titres du disque sont des compos des membres du groupe, et l'autre moitié est piochée chez d'autres compositeurs, ou dans des traditions, allant du Poitou à l'Arménie, en passant par la Suisse romane, avec un air de danse qui incorpore un yodel que l'on devine à la fois alpin et appalachien, avec la mandoline. Et ce groupe qui se revendique sans compromis et sans subvention a autoproduit son disque et il le distribue lui-même. Vous trouverez comme toujours le lien vers leur site sur notre audioblog en description de cette émission.
Ah, je vais commencer par là. Ouais. Nous ferons ronfler le violon, la tempête et le tympanon. Ronfler ci, ronfler là, ronfler la musique, la lanterne magique. Il y en avait davantage, mais on ne sait pas plus.
Non, mais comment vous le savez que c'est lui qui a inventé le petit coup?
Mais tout le monde le sait. Mais comme mon père a inventé. Mais ce qui s'appelait le tirardipipé, c'était ma mère.
Non, mais peut-être qu'il avait ajouté un couplet.
Ah, ben, c'est que non, il a ajouté rien du tout. Qu'est-ce que mon père voulait qu'il ajoute? Dites-moi.
Des fois, on connaît un air et on met des paroles.
Mais jamais, il n'existait pas cet air. On se m'a mis en colère quand on m'a dit que c'était un tel qu'il avait...
Bon, bah, c'était une petite pépite de collectage, comme on les aime.
Sympa cette virgule.
Voilà, bref, ça n'a aucun rapport avec la choucroute.
Voilà. And now something completely different.
Un duo maintenant qui n'est pas spécialement nouveau, qui ne sort pas d'album récent, mais dont on n'avait jamais encore parlé passé la musique, c'est Moonfolk. À l'accordéon chromatique, c'est Guillaume Verger que l'on va entendre sur cet album et qui est parfois remplacé en bal par Aymeric Tron. Au saxophone, soprano et bariton, c'est Jonathan Balmé-Frézol qui...
Donc on a déjà parlé dans cette émission.
Beaucoup,
on en passe souvent ces groupes.
Voilà, il a entre autres une formation solo qui s'appelle Octopulse et un trio avec La Mèche, donc qu'on adore hein, puisqu'on les a déjà diffusés. Son jeu, qui est très influencé par le jazz, c'est un jeu largement fondé sur l'improvisation. Et Moonfolk ne fait pas exception, c'est aussi largement de la musique improvisée. Et on y a des envolées de saxophones qui prennent appui sur des boucles ou les basses d'accordéon pour qu'ils brodent ensemble ces deux instruments, se cherchent, se répondent sur des thèmes traditionnels ou sur des compos de l'accordéoniste. Quand c'est avec les graves du saxophone baryton, alors là, on frôle carrément le monde des Sélénites et certains morceaux n'ont rien à envier au rock progressif. On retrouve un... Et ouais, j'ai casé Sélénite dans ma chronique.
C'est bien, c'est les habitants de la Lune.
Bravo. On retrouve un répertoire de bals généralistes, plutôt teinté par l'exploration du Languedoc et du Massif Central, mais eux se disent néo-trades. Voilà. On se quitte donc avec Moonfolk et avec la valse à George Sand, qui est un traditionnel, qui est aussi parfois appelé la pique du jour, donc qui vous dira peut-être quelque chose. Et c'est ici largement arrangé à la sauce Moonfolk. Et à bientôt.
À dans 2 semaines.
¶¶ Thank you.